Chapitre 20. En Andorre. Elaine avait espéré que le voyage jusqu'à Kemlin se déroulerait sans anicroche. Au début, il avait semblé que ce serait le cas. La fille héritière y repensait, alors qu'elle était assise sur le sol près d'Avienda et Birgit, ses vêtements en lambeaux comme les leurs. Toutes les trois couvertes de crasse, elles étaient aussi poisseuses de sang. Le tribut à payer aux blessures récoltées lors de l'explosion du portail. Dans 2 semaines au maximum, Elaine serait en position de prétendre au trône du lion. En attendant, au sommet de cette colline, Nineveh était en train de guérir ses innombrables plaies et celles des deux autres, pratiquement sans un mot, et en tout cas, en s'abstenant de les enguirlander. Une très bonne chose, si peu habituelle fut-elle. Sous les traits de l'ancienne sage-dame, l'inquiétude pour ses amis se mêlait au soulagement de les avoir trouvées vivantes. Avant de pouvoir guérir la cuisse de Birgit, il fallut toute la force de l'âne pour en extraire le carreau d'arbalète. Bien qu'elle soit devenue blême, et Elaine sentant sa douleur à travers le lien, la championne lâcha à peine un grognement.
« Taïchar Kondor, »
murmura l'âne en jetant au loin le carreau à tête triangulaire conçu pour traverser une armure. Le vrai sang du Kondor. Voyant Birgit froncer les sourcils, le champion développa son propos.
« D'après tes vêtements, j'ai supposé que tu es originaire du Kondor. » « Navré si je me suis trompé. »«
Oui, oui. »
Halta l'archère.
« Du Kondor. »
Son pâle sourire était-il à mettre sur le compte de ses blessures? Alors que Nineveh, pressée de se mettre au travail, écartait l'âne, Elaine espéra que l'héroïne connaissait du Kondor autre chose que son nom. À l'époque de sa naissance, ce pays n'existait pas encore. Elle aurait dû prendre ça pour un présage. Pour rejoindre le petit manoir à toit d'ardoise, à une bonne lieue de là, Birgit chevaucha en croupe sur la jument de Nineveh, baptisée Nœud d'amour tant qu'on y était, tandis qu'Elaine et Avienda se partageaient les talons noirs de l'âne. Alors que la fille héritière paradait en selle, l'aïel s'accrochant à sa taille comme à une bouée de sauvetage, le champion guida Mandarbe par la bride. Étant en eux-mêmes des armes, les chevaux de guerre pouvaient se révéler très dangereux pour des cavaliers sans expérience.
« Montre-toi toujours très sûr de toi, mon enfant !»
avait l'habitude de répéter Lini à Elaine.
« Mais pas trop sûr !»
Depuis, la fille héritière essayait d'être fidèle à cette devise. Elle aurait donc dû avoir conscience que les événements n'étaient pas plus entre ses mains que les rênes de Mandarbe. Dans le manoir à 3 niveaux, maître et maîtresse Hornwell avaient déjà mobilisé tous leurs employés, plus Paul, la servante de Merylil, et tous les domestiques en livrée vert et blanc venus du palais Tarassine, afin de loger convenablement les quelques 200 personnes, en majorité des femmes, qui avaient surgi de nulle part un peu avant la tombée de la nuit. Plutôt massif et franchement grisonnant, Maître Hornwell aurait pu être le jumeau de son épouse, tant il se ressemblait, dans une version un peu moins dodue et grisonnante pour maîtresse Hornwell. Sous leur supervision, le travail avançait vite, malgré les regards ronds qu'arrachaient aux serviteurs du domaine, le visage sans âge d'une Aes Sedai, la cape caméléon d'un champion ou la tenue étrange, les boucles d'oreilles, les anneaux nasaux et les chaînettes lestées de médaillons d'une Atan Mieré. Malgré ce que Réan et les autres tricoteuses leur avaient dit, les femmes de la famille, estimant qu'elles pouvaient enfin laisser libre cours à leurs angoisses, couinaient comme des trucs qu'on amène à l'abattoir. Les régentes des vents, elles, se plaignaient amèrement d'avoir été conduites si loin de la mer, contre leur volonté, ainsi que le criaient partout Renail d'Incalon. Quant aux nobles et aux artisanes, pourtant fort pressés un peu plus tôt de fuir les forces qu'avaient investies Eboudard, en emportant un baluchon pour tout bagage, elles se lamentaient à l'idée de devoir dormir dans la paille d'une grange. Tout ça était déjà bien en train lorsque Elaine et les autres arrivèrent, alors que le soleil sombrait à l'horizon occidental. Beaucoup d'agitation, certes, aussi bien dans le manoir que dans les dépendances, mais Alice Tengile, toujours souriante et pourtant impitoyable, semblait tenir son petit monde encore mieux que les époux Hornwell, pourtant très compétents. Alors qu'elle pleurait d'autant plus fort que Réan tentait de les consoler, les membres de la famille, sur un seul murmure d'Alice, se mettaient à agir comme des personnes responsables, habituées depuis des années à s'assumer dans un monde hostile. Pareillement, des nobles dames à l'air hautain, un couteau de mariage pendant entre leurs seins opulents, et des artisanes qui les valaient bien sur le plan de l'arrogance et de la générosité mammaire, cessaient de ronchonner dès qu'elles apercevaient Alice. S'exclamant qu'elles avaient toujours rêvé de dormir dans une grange, une expérience follement amusante, elles se précipitaient d'un pas allègre vers les grands bâtiments au toit de chaume. Même les régentes, dont un certain nombre comptait parmi les femmes les plus influentes de leur peuple, filaient doux quand Alice s'occupait de leur cas. Trop jeune pour avoir le visage sans âge d'une Aes Sedai, Sareïta lorgnait Alice d'un air dubitatif, tout en caressant du bout des doigts les franges de son châle, histoire de se rappeler qu'elle en portait un. Aussi imperturbable que d'habitude, Merrylil regardait Alice travailler avec un mélange d'approbation et d'étonnement. Mettant pied à terre devant la porte du manoir, Ninevé foudroya Alice du regard, tira d'un coup sec sur sa natte, un geste que sa nouvelle némésis était bien trop occupée pour remarquer, puis entra dans le bâtiment en retirant ses gants de cuir bleu et en marmonnant entre ses dents. L'âne la suivit du regard et ne put s'empêcher de ricaner, mais il se reprit dès qu'Hélène fut descendue de sa monture. Le champion riait, mais ses yeux étaient glaciaux. Pour le bien de Ninevé, la fille héritière espéra que cet homme pourrait échapper à son destin. Mais quand on sondait son regard, il devenait difficile d'y croire.
« Où est Hispan ?»
demanda la jeune femme en aidant Avienda à mettre pied à terre. Trop de femmes savaient qu'une Aes Sedai, une sœur noire, était prisonnière pour que la nouvelle ne se répande pas dans tout le domaine à la vitesse d'un feu de brousse. Alors autant préparer un peu le personnel du manoir.
« Adeleas et Vanden l'ont conduite dans une cabane de bûcherons, à environ un quart de lieue d'ici, » répondit l'âne. « Avec toute cette agitation, je doute que quelqu'un ait remarqué une femme avec un sac sur la tête. Les deux sœurs ont dit qu'elle resterait avec Hispan cette nuit. »
Elaine frissonna. La sœur noire allait être interrogée de nouveau après le coucher du soleil. Maintenant que l'expédition était en Andorre, elle avait plus qu'avant l'impression d'avoir donné cet ordre qui la terrifiait. Très vite, la fille héritière se retrouva dans une baignoire de cuivre à se délecter de l'odeur du savon et à s'émerveiller de voir sa peau redevenir d'une blancheur éclatante. Riant aux éclats, elle projeta de l'eau sur Birgit, qui se prélassait dans une autre baignoire, sauf quand elle ne ripostait pas aux attaques aquatiques de son Aes Sedai. Dans une troisième baignoire, Avienda avait quelque peine à cacher son indignation. Pensez, s'asseoir dans de l'eau et en avoir jusqu'au cou. Cela dit, surmontant sa gêne, l'aïeul raconta l'histoire assez inconvenante d'un homme aux fesses hérissées d'épines de ségade. Mise en train, Birgit surenchérit en évoquant les malheurs un rien salace d'une femme s'étant coincée la tête dans une palissade. Alors qu'Avienda elle-même en rougissait, Elaine dut reconnaître que ses blagues étaient à mourir de rire. Et elle regretta de ne pas en connaître une de cet acabit. Après qu'Avienda et la fille héritière se furent mutuellement brosser les cheveux, un rituel vespéral incontournable pour des presque sœurs, elles se glissèrent dans le grand lit à baldaquin de la petite chambre, en compagnie de Birgit et de Ninevé, et en se félicitant qu'il n'y ait personne d'autre. Dans les plus grandes pièces, y compris les salons et les cuisines, et dans les couloirs, on avait disposé sur le sol des lits de camp et des paillasses. Durant une bonne moitié de la nuit, Ninevé se plaignit qu'on ait osé forcer une femme à dormir loin de son mari. L'autre moitié, ses coups de coude dans les côtes réveillèrent Elaine chaque fois qu'elle réussit à fermer l'œil. Birgit ne voulant pas changer de place, la fille héritière refusa catégoriquement de demander à Avienda de subir ce calvaire. Du coup, elle ne dormit pratiquement pas. Le lendemain matin, au lever du soleil, une grosse boule d'or liquide, Elaine était encore dans le brouillard lorsque sonna l'heure du départ. Sauf à le dépouiller totalement, le domaine avait fort peu de chevaux disponibles. Du coup, à part Avienda et Birgit, qui reçurent de nouvelles montures, et la fille héritière désormais maîtresse d'un hongre noir nommé Cœur de Feu, toutes les personnes qui étaient parties à pied de la ferme avant l'arrivée des Séanchaniens allaient devoir continuer de même. Ça concernait essentiellement les membres de la famille, les serviteurs qui menaient par la bride les chevaux de bât et la vingtaine de nobles et de riches dames qui n'en étaient même plus à regretter d'avoir voulu chercher à la ferme la paix et l'occasion de méditer. Les champions partirent en éclaireur, le reste de la colonne serpentant derrière Ninevé, Elaine et les autres sœurs. Sans oublier Avienda, bien entendu. Dans ce paysage où les collines alternaient avec des forêts dévastées par la sécheresse, autant de femmes escortées par si peu d'hommes ne pouvaient pas passer inaperçues. Surtout quand elles comptaient dans leur rang des régentes des vents aussi à l'aise sur une selle qu'un pendu au bout de sa corde, et 8 Aes Sedai, dont 5 identifiables de très loin pour quiconque savait quoi regarder. Même et surtout si l'une d'entre elles chevauchait avec un sac sur la tête. Elaine avait pensé atteindre Kemlin sans se faire remarquer, mais il ne fallait plus y songer. Cela dit, rien ne pouvait laisser penser aux gens que la fille héritière, Elaine Tracand en personne, faisait partie de cette improbable colonne. Au début, elle se disait que les ennuis viendraient sans doute d'une rivale qui, apprenant qu'elle venait, enverrait des soldats pour la capturer et la tenir à l'écart, jusqu'à ce que la bataille pour la succession soit finie. À présent, elle redoutait que la catastrophe soit provoquée par les fichus nobles dames et artisanes aux pieds constellés d'ampoules. Des femmes arrogantes et hautaines, absolument pas habituées à crapahuter, et outrées depuis que Paul, la servante de Merrylil, avait le droit de chevaucher une jument grassouillette. Les rares fermières de ce groupe ne s'en offusquaient pas trop, mais plus de la moitié de ces femmes possédaient des terres, un manoir et un palais, et presque toutes les autres auraient pu s'acheter un domaine, voire deux ou trois. Dans cette catégorie, on trouvait deux joaillères, trois tisserandes qui possédaient 400 métiers à tisser à elles toutes, une banquière et une propriétaire de manufacture dont les ateliers produisaient le dixième de tous les objets laqués fabriqués à Eboudar. ces nobles et ces femmes d'affaires marchaient, leurs baluchons accrochés dans leur dos, alors que leurs chevaux croulaient sous le poids de paniers remplis de nourriture, des réserves ô combien précieuses. Jusqu'à la dernière pièce, tout l'argent des voyageuses avait été remis entre les mains de Ninevée, connue pour un sens de l'économie proche de la radinerie. Et pourtant, ça ne suffirait peut-être pas pour payer la nourriture et le logement de tant de personnes, sans parler du fourrage pour les chevaux. Hélas, ces dames refusaient de comprendre. Toute la première journée de marche, elles la passèrent à se plaindre, la plus véhémente étant une certaine Malienne. Ployant sous le poids d'un énorme baluchon, plus d'une dizaine de robes, plus le linge et les accessoires assortis, elle râlait presque en permanence. Le premier soir, après le repas, tous les estomacs étant bien remplis de pain et de haricots, pour la satisfaction c'était une autre affaire, Malienne rassembla autour d'elle toutes les nobles dames à la tenue maculée de poussière. La banquière et les femmes d'affaires et artisanes se joignirent à la réunion, les fermières restant à portée d'oreille. Mais avant que la meneuse ait pris la parole, Réanne fit irruption dans le cercle. Ses joues et son front ridés par des années de sourire, sa jupe relevée sur un côté pour exposer ses jupons aux couleurs vives, elle aurait pu être une des fermières.
« Si vous voulez rentrer chez vous, »
dit-elle de sa voix curieusement haut perchée,
« vous êtes libre de partir à tout moment. Cependant, j'ai le regret de vous dire que nous garderons vos chevaux. Bien entendu, vous serez dédommagés dès que ce sera possible. Si vous choisissez de rester, gardez à l'esprit que les règles de la ferme s'appliquent à cette expédition. »
Plusieurs femmes en restèrent bouche bée, et Malienne s'apprêta à exploser d'indignation. Les poings plaqués sur les hanches, Alice sembla se matérialiser aux côtés de Réanne. Elle ne souriait plus désormais.
« Les 10 qui ont traîné que nous avons quitté la ferme vont faire la vaisselle, comme prévu, »
dit-elle d'un ton sec. Elle fit l'appel. Gillienne, une joaillière boulotte, Nessel, la banquière au regard froid, et les 8 nobles du groupe. Bien entendu, les 10 femmes ne bronchèrent pas jusqu'à ce qu'Alice tape dans ses mains.
« Pour vous forcer à obéir, ne m'obligez pas à invoquer l'article du règlement de la ferme concernant l'échec. »
Les yeux ronds et marmonnant d'outrage, Malienne fut la dernière à aller collecter les assiettes et les couverts sales. Mais le lendemain matin, elle allégea son baluchon, abandonnant des robes au col de dentelle et plusieurs chemisiers brodés. Même si Egwen continua à redouter une explosion, Réanne parvint à tenir fermement son petit monde, et Alice encore plus fermement. Chaque fois que Malienne et les autres se plaignaient des taches de graisse qui s'accumulaient sur le devant de leurs robes, quelques mots de Réanne les renvoyaient à l'ouvrage. Alice, elle, se contentait de frapper dans ses mains. Si le reste du voyage avait pu se dérouler aussi bien, Elaine serait volontiers allée donner un coup de main aux 10 femmes. Hélas, les choses se gâtèrent longtemps avant que Kemlin soit en vue. Quand la colonne atteignit les premières routes, des pistes plutôt étroites et cabossées, des exploitations agricoles commencèrent à apparaître. Des fermes et des granges en pierre au toit de chaume, accrochées au flanc d'une colline ou nichées dans une cuvette. À partir de là, quelle que soit la configuration du paysage, l'expédition ne cessa plus de croiser sur son chemin des fermes et des villages. Chaque fois que ce fut possible, Elaine interrogea les gens du cru, ébahis par la très étrange colonne, pour évaluer les soutiens potentiels de la maison Trakand et en apprendre plus sur les préoccupations du peuple. En effet, répondre à ses préoccupations, lorsqu'elle revendiquerait le trône, serait presque aussi important que d'avoir le soutien de telle ou telle maison. Lors de ces conversations, elle entendit beaucoup de choses, un certain nombre n'ayant pas l'heure de lui plaire. Persuadés qu'ils avaient le droit de dire ces 4 vérités à la reine en personne, les Andoriens n'étaient pas susceptibles de ménager une jeune noble, même s'ils voyageaient en très curieuse compagnie. À Damélienne, un village doté de 3 moulins à eau dressés sur la berge d'une rivière hélas asséchée, le patron de l'auberge, nommé la Gerbe d'Or, reconnut que Morgaz avait été une bonne reine, la meilleure possible, et peut-être même la plus grande de l'histoire.
« Sa fille aurait sans doute été une bonne dirigeante, »
ajouta-t-il en se grattant le menton.
« Dommage que le dragon réincarné l'ait tué aussi. Je suppose qu'il était obligé, avec toutes ces histoires de prophéties. Mais rien ne l'obligeait à assécher les rivières, pas vrai? Combien avez-vous dit qu'il vous fallait de fourrage, madame? Il est hors de prix, je vous préviens. »
Plus loin, dans un coin appelé Bury Hill, Elaine parla à une femme au visage austère, vêtue d'une robe marron et limée bien trop grande pour elle, comme si elle avait récemment perdu beaucoup de poids. Contemplant tristement un champ dévasté par la trop longue sécheresse, la fermière était allée dans le sens de l'aubergiste.
« Dragon réincarné n'a aucun droit de nous faire ça. C'est moi qui vous le dis. Le trône? Eh bien, Dagelin ne serait pas pire qu'une autre, maintenant que Morgaz et sa fille sont plus de ce monde. Dans le coin, des gens soutiennent Nayan ou Elenia, mais moi, je suis pour Dagelin. Cela dit, Kemlin est loin d'ici. Et il faut que j'essaie de sauver la récolte, si j'en ai une. »
À Marché de Forel, un autre village, Elaine rencontra un vieux menuisier plein de certitudes.
Hélène est vivante, madame. Je vous le garantis. »
Chauve comme un œuf, les mains ratatinées par l'arthrose, le vieux type faisait peine à voir. Mais les meubles exposés dans son atelier, au milieu des copeaux et de la sciure, auraient pu rivaliser avec les plus belles créations qu'Hélène avait jamais vues. Dans le village abandonné par une bonne moitié de ses habitants, l'artisan restait solide au poste.
« Le dragon réincarné l'a fait venir à Kemlin, afin de pouvoir lui-même poser la couronne de rose sur sa tête. Tout le monde en parle. Si vous voulez mon avis, ce n'est pas bien du tout. D'après ce qu'on dit, ce dragon est un aïeul aux yeux noirs. Eh bien, nous devrions tous aller à Kemlin pour l'en chasser, lui et tous les autres sauvages. Ensuite, Hélène pourra revendiquer le trône. Si Daïeline la laisse faire, bien sûr. »
Sur Rande, Hélène entendit une kyrielle de rumeurs. On racontait, par exemple, qu'il avait juré allégeance à Elaïda, ou qu'il était désormais le roi de Liliane. En Andorre, on l'accusait de tout ce qui n'allait pas depuis 2 ou 3 ans, y compris les bébés mort-nés, les jambes cassées, les invasions de sauterelles, les veaux à 2 têtes et les poulets à 3 pattes. Même les gens convaincus que Morgaz avait ruiné le pays, la fin du règne de la maison Trakande étant une délivrance, continuaient à tenir Randaltor pour un envahisseur. La mission du dragon réincarné, c'était de combattre le ténébreux au mont Shayolgul. Et avant ça, il n'avait rien à faire en Andorre. Vraiment, ce n'était pas ce qu'Hélène avait envie d'entendre. Mais on le lui répéta tout au long du voyage, qui se révéla détestable, tout compte fait. La vibrante illustration d'un des dictons favoris de Ligny.
« Ce n'est pas la pierre que tu vois qui te fait trébucher et tomber sur le nez. »
En plus des troubles que pouvaient provoquer les nobles dames, Hélène redoutait plusieurs problèmes potentiels, susceptibles de finir par une explosion aussi dévastatrice que celle du portail. Pleines d'arrogance après le joli coup qu'elles avaient réussi en leur arrachant ce marché, à Nineveh et à elle, les régentes des ventes traitaient de haut les Aes Sedai. En particulier depuis que Merilil, c'était désormais de notoriété publique, avait accepté d'être une des premières sœurs à aller sur les bateaux. Pourtant, si cette mèche-là continuait à grésiller comme celle d'une fusée d'illuminateur, l'explosion ne vint jamais. Entre les Ata Admiré et les femmes de la famille, surtout les tricoteuses, la tension était aussi grande. Se battant froid la plupart du temps, elle ne cessait que pour se descendre en flammes. Les membres de la famille ironisaient sur les naturels du peuple de la mer qui se prenaient pour des merveilles, tandis que leurs antagonistes raillaient les minables du plancher des vaches toujours prêtes à cirer les chaussures des Aes Sedai. Mais les choses n'allèrent jamais au-delà de regards noirs ou de mains s'attardant sur le manche d'un couteau. À défaut, Hispan semblait être une excellente candidate pour provoquer une catastrophe. Pourtant, après quelques jours, Vanden et Adeleas la laissèrent chevaucher tête nue, mais toujours isolée de la source. Sans jamais desserrer les dents, les yeux toujours baissés, la sœur noire aux tresses décorées de perles filait parfaitement doux. Bien entendu, Reneil clama partout qu'un suppôt des ténèbres, au sein des Ata Admiré, était privé de son nom dès qu'on l'avait reconnu coupable, puis jeté par-dessus bord avec des pierres attachées aux chevilles. Parmi les membres de la famille, même Réan et Alice blêmissaient, chaque fois qu'elles apercevaient Hispan. Mais la sœur noire, originaire du Tarabone, devint de plus en plus docile, souriant sans cesse aux deux Aes Sedai aux cheveux blancs, qui continuaient pourtant à l'interroger durement chaque soir. Dans ces conditions, Adeleas et Vanden se montrèrent de plus en plus frustrés. À portée d'oreille d'Hélène, Adeleas confia à Nineveh qu'Hispan s'épanchait sans retenue sur tous les anciens complots de la Janoire, en particulier sur ceux auxquels elle n'avait pas participé. Mais lorsqu'on lui mettait la pression, Hélène préféra ne pas savoir quelle sinistre réalité se cachait derrière cette expression et qu'elle lâchait des noms de suppôts des ténèbres. Il s'agissait 9 fois sur 10 de morts, et jamais d'Aes Sedai. Selon Vanden, il était à craindre qu'elle ait prêté un serment, la majuscule s'entendait, lui interdisant de trahir ses complices. Les deux sœurs continuèrent cependant à isoler Hispan et à l'interroger, mais on sentait qu'elles avançaient désormais à tâtons, et en redoutant à chaque pas de s'en mêler les pieds. Il y avait aussi Nineveh et Lan. Un beau feu qui couvait sous la braise, celui-là. À force de contrôler son tempérament de feu quand Lan était là, Nineveh en avait la fumée, qui lui sortait des naseaux. Affligé chaque fois qu'il devait dormir séparé, à savoir le plus souvent vu les conditions d'hébergement, elle était déchirée entre l'angoisse et l'enthousiasme dès qu'elle pouvait partager avec lui une meule de foin. Selon Hélène, l'ancienne sage-dame avait eu tort d'opter pour un mariage régi par les coutumes du peuple de la mer. Vénérant la hiérarchie à peu près autant qu'ils adoraient la mer, les Ata Admiré savaient qu'une femme et son mari, au gré de multiples promotions, pouvaient se passer l'un devant l'autre plusieurs fois au cours de leur vie. Leur règle du mariage tenait compte de cette réalité. En conséquence, celui qui avait le droit de commander en public était tenu d'obéir en privé. D'après Nineveh, Lan ne profitait jamais de cet arrangement. Enfin, pas vraiment. quoi que ça puisse vouloir dire. Chaque fois qu'elle apportait cette précision, Ninevé rougissait. Cela dit, elle semblait toujours craindre qu'il change de politique. Et son époux trouvait ça terriblement amusant. Bien entendu, cette taquinerie exaspérait l'ancienne sage-dame et ne faisait rien pour la calmer. Comme c'était prévisible, parmi toutes les explosions que craignait Elaine, celle de Ninevé se produisit pour de bon. Hors d'elle, elle se défoulait sur toute personne qui lui tombait sous la main. À part l'âne, qu'elle traitait toujours avec une dégoulinante gentillesse. Et Alice. En une ou deux occasions, elle avait failli la rudoyer, mais au bout du compte, elle s'en était abstenue. Au sujet des artefacts rapportés du Rahad en même temps que la coupe des vents, Elaine nourrissait des espoirs et non des inquiétudes. Avienda l'aidait dans ses investigations, et Ninevé avait une fois ou deux mis la main à la pâte. Mais elle se montrait bien trop lente et hésitante, manquant totalement de l'habileté requise pour ce genre de recherche. Le bilan était mitigé. Pas de nouvel engréal découvert, mais une collection de terrangréal en nette augmentation. Une fois les détritus éliminés, les authentiques artefacts remplissaient quand même 5 paniers d'osier portés par les chevaux de bas. Si méthodique que fût Elaine, étudier ces objets se révéla bien plus difficile que prévu. Sauf dans le cas où c'était la source d'alimentation de l'artefact, l'esprit se révélait le plus sûr des 5 pouvoirs, lorsqu'on menait de telles études. La fille héritière devait pourtant utiliser parfois d'autres flux, les tissant aussi finement que possible. Très souvent, en sondant ainsi délicatement un objet, elle n'obtenait aucun résultat. Mais son premier contact avec l'artefact qui ressemblait à un puzzle de forgeron en verre lui avait flanqué un choc terrible, l'empêchant de fermer l'œil pendant une bonne partie de la nuit. Et lorsqu'elle appliqua un filament de feu sur ce qui paraissait être un casque composé de plumes métalliques, tous les gens qui se trouvaient dans un périmètre d'une 20aine de pas furent frappés par une soudaine et fulgurante migraine, à part Elaine elle-même. Il y avait aussi l'étrange baguette rouge qui semblait chaude, d'une certaine façon. Assise au bord de son lit, dans une auberge nommée au Sanglier Sauvage, Elaine étudiait le curieux objet à la lumière des 2 lampes en cuivre à déflecteur. D'un diamètre égal à son poignet et d'un pied de long, cet artefact semblait être en pierre, mais au toucher, on pensait plutôt à du verre. Depuis la mésaventure du casque, Elaine s'isolait lorsqu'elle travaillait sur ses trésors. Elle était donc seule dans sa chambre, lorsque la chaleur de la baguette la fit penser au feu. Clignant des yeux, elle s'assit en sursaut, et constata que la lumière du jour entrait à flot par la fenêtre. Alors qu'elle était en chemise de nuit, Ninevé, tout habillée, la regardait en fronçant les sourcils. Dans l'encadrement de la porte, Avienda et Birgit la fixaient aussi.
« Que s'est-il passé, Ninevé ?»
L'ancienne sage-dame secoua la tête.
« Il vaut mieux que tu ne le saches pas. »
Comme toujours, le visage d'Avienda ne trahissait pas ses sentiments. Birgit arborait une moue un peu pincée, mais venant d'elle, Elaine capta un mélange de soulagement et d'hilarité. En d'autres termes, l'héroïne mobilisait toute sa volonté pour ne pas se rouler par terre de rire. Malgré ses questions, Elaine ne put pas découvrir la vérité, car tout le monde refusa de lui répondre. Mais au nom de la lumière, qu'avait-elle dit ou fait? Car c'était bien ça le problème. Les sourires en coin des régentes, des femmes de la famille et des autres sœurs ne permettaient pas d'en douter. Mais toutes participaient à la conspiration du silence. Après cet incident, Elaine décida d'étudier les terrangréal dans des endroits plus appropriés qu'une auberge, là où elle pourrait jouir d'un peu d'intimité. 9 jours après la fuite précipitée des Boudards, des nuages apparurent dans le ciel et les premières gouttes de pluie s'écrasèrent dans la poussière de la route. Le lendemain, le crachin ne cessa pas, et le jour suivant, un déluge contraignit l'entière expédition à se réfugier dans les maisons et les granges de Marché de Forel. Durant la nuit, la pluie se transforma en neige fondue, et au matin, d'authentiques flocons se mirent à tomber. Après que la colonne eut parcouru plus de la moitié du chemin la séparant de Kimlin, Elaine se demanda si 2 semaines lui suffiraient pour arriver à destination, dans de telles conditions. Avec la neige, les vêtements devinrent un gros souci. Alors qu'Elaine s'en voulut de ne pas avoir pensé que des habits chauds auraient été utiles, Ninevé s'accusa de négligence sur le même sujet. Merylil se jugea coupable, et Réan estima que tout était sa faute. Dans la rue principale de Marché de Forel, des flocons s'abattant sur leur tête, les 4 femmes discutèrent ferme pour savoir laquelle devait être blâmée. Soudain frappées par l'absurdité de leur comportement, elles éclatèrent de rire. Impossible de dire laquelle avait commencé. Et elles n'étaient pas encore calmées lorsqu'elles s'assirent autour d'une table à l'auberge du Cygne Blanc, afin de décider que faire. La solution qu'elles trouvèrent leur fit passer l'envie de rire. En supposant qu'on en dégote un nombre suffisant, fournir une cape ou une veste chaude à tout le monde coûterait une fortune. Il était toujours possible de vendre ou de troquer des bijoux, mais à Marché de Forel, les gens ne paraissaient pas intéressés par les colliers et les bracelets, même de très bonne qualité. Avienda résolut le problème en sortant de sa poche un petit sac rempli de pierres précieuses de toutes les tailles. Très curieusement, les villageois qui ne manifestaient aucun intérêt pour les bijoux, pourtant ornés de gemmes, écarquillèrent les yeux devant le trésor que Lagaïl tenait dans sa paume. Selon Réan, les bijoux, pour ces gens, étaient de la cacaillerie, alors que les pierres représentaient un investissement. Quoi qu'il en soit, en échange de deux rubis de taille moyenne, d'une grosse pierre de lune et d'une petite larme de feu, les gens de marché de Forel furent ravis de fournir aux voyageuses tout ce qu'il leur fallait pour se couvrir, dont des vêtements quasiment neufs.
« Très généreux de leur part, »
marmonna Nineveh, tandis que les villageois vidaient leurs armoires et leurs greniers. Ils arrivaient à l'auberge par flots réguliers, les bras chargés d'habits.
« Avec ces pierres, on pourrait acheter tout le village. »
Avienda haussa les épaules. Sans l'intervention de Réan, elle aurait distribué une grosse poignée de gemmes.
« Nous avons ce qu'ils veulent, »
dit Merylil.
« Et eux, ils détiennent ce dont nous avons besoin. Logiquement, c'est à eux de fixer le prix. »
En d'autres termes, la même situation qu'avec les Atta Admiré. Nineveh en était verte de dépit. Lorsqu'elles furent enfin seules, dans un couloir de l'auberge, Elaine demanda à Avienda d'où elle tenait une telle fortune, dont elle paraissait en plus pressée de se débarrasser. La fille héritière s'attendait à apprendre qu'il s'agissait d'une part du butin prélevé dans la pierre de Théar ou à Caïrienne.
« Randaltor m'a abusé, »
grogna Lagaïl.
« J'ai tenté d'acheter le taux que j'ai envers lui. Je sais que c'est la façon de faire la moins honorable, mais je n'en voyais pas d'autre. Alors il m'a roulé dans la farine. Chaque fois qu'on raisonne logiquement face à un homme, il s'en sort en faisant quelque chose d'irrationnel. Comment est-ce possible? Leur jolie tête est bien trop embrumée pour qu'une femme comprenne ce qui s'y passe. »
Elaine ne chercha pas à savoir quel taux Avienda avait voulu racheter, ni comment elle avait fini par se retrouver au contraire avec un petit sac plein de pierres précieuses. Parler de Rand était déjà trop douloureux, sans risquer de dériver sur un terrain glissant. La neige n'eut pas pour seule conséquence l'affaire des vêtements chauds. À midi, alors que les flocons se faisaient de plus en plus gros, Reneil descendit dans la salle commune. Clamant que sa part du marché était remplie, elle exigea qu'on lui remette la coupe des vents et Merylil. La sœur grise en fut consternée, et d'autres partagèrent sa réaction. Alors que la salle était pleine de femmes de la famille venues déjeuner, c'était leur tour, des serveurs des deux sexes couraient partout pour faire face à ce troisième service. Reneil ayant parlé haut et fort, toutes les têtes se tournèrent vers elle.
« Tu peux commencer tes cours dès maintenant, »
dit Reneil à la Sedaï.
« Montons donc dans mes quartiers. »
Merylil voulut protester, mais un regard glacial de la régente des vents l'en dissuada.
« Merylil Sandevin, quand je donne un ordre, tous les gens présents sur le pont doivent être prêts à l'exécuter. Alors exécution et que ça saute !»
Merylil ne sauta pas vraiment, mais elle obéit néanmoins, Reneil la poussant pratiquement dans l'escalier. Ayant donné sa parole, la sœur n'avait pas le choix. Réan en resta ébahie. Alise et Soumeko, qui portaient toujours sa ceinture rouge, regardèrent pensivement les deux femmes s'éloigner. Les jours qui suivirent, que les voyageuses soient en train de chevaucher dans une plaine enneigée ou de chercher une ferme assez grande pour les héberger, Reneil obligea Merylil à la suivre comme son ombre, sauf quand elle lui donnait congé pour s'entretenir avec une autre régente. L'aura du Saïdar l'enveloppant presque constamment, tout comme Reneil, Merylil passa son temps à exécuter des tissages pour les apprendre à l'Atta Admiré. Plus petite que la plupart des femmes du peuple de la mer, la sœur grise parvint au début à paraître de la même taille, une affaire de volonté et de dignité. Très vite, hélas, elle se voûta et afficha une expression résignée. Lorsque tout le monde avait un lit où dormir, ce qui n'arrivait pas souvent, Merylil partageait le sien avec sa servante, Paul, et les deux apprentis régentes, Talahan et Metara. Quand elle l'apprit, Elaine se demanda ce que ça révélait sur le statut de Merylil. Sans en être absolument sûre, elle postula que les régentes ne la mettaient même pas au niveau des apprentis. Elles attendaient qu'elle obéisse à leurs ordres sans discuter, et rien de plus. Réan resta indignée par cette affaire. Alise et Soumeko, elles, ne furent pas les seules femmes de la famille à manifester leur pensive désapprobation. Soudain, Elaine s'avisa qu'il y avait un nouveau problème. Les membres de la famille voyaient Hispane devenir de plus en plus docile, mais elle était prisonnière de ses collègues, si on pouvait exprimer les choses ainsi. Les Atta Admiré n'étaient pas des sœurs, et Merylil restait une femme libre. Pourtant, elle commençait elle aussi à obéir dès que Reneil aboyait un ordre. Même chose quand c'était Doril, Caïr ou Tébreil, la sœur de sang de cette dernière. Chacune de ces femmes était régente pour la maîtresse des vagues d'un clan, et la sœur ne filait pas aussi doux face aux autres Atta Admiré, mais quand même. Les femmes de la famille passèrent de la simple indignation à la réflexion critique. Au fond, les Aes Sedai étaient peut-être bien des femmes comme les autres. Et dans ce cas, pourquoi se soumettre de nouveau à la discipline de la Tour Blanche, sous l'autorité de sœurs qui ne leur étaient en rien supérieures? Après tout, n'avaient-elles pas survécu sans aide pendant des lustres,
parfois même plus longtemps que les sœurs les plus âgées étaient prêtes à le croire.
Elaine voyait presque ses idées se former dans la tête des compagnes de Rhéanne. Quand elle en parla à Ninevée, celle-ci se contenta de marmonner.
« Il est temps que certaines sœurs sachent ce que ça fait, d'essayer de former quelqu'un qui croit en savoir plus long que son professeur. Les femmes qui ont une chance d'obtenir le châle s'accrocheront. Quant aux autres, je ne vois pas pourquoi elles devraient courber l'échine. »
Elaine s'abstint de mentionner les lamentations de Ninevée au sujet de Soumeko, qui n'était pas vraiment du genre à courber l'échine. Pleine d'audace, la naturelle avait critiqué certains tissages thérapeutiques de Ninevée, les qualifiant de pâteaux. Bien entendu, l'ancienne sage-dame avait failli faire une crise d'apoplexie.
« En tout cas, inutile d'en parler à Egwen, si elle est au rendez-vous. Pas un mot sur tout ça et le reste. Elle a assez de soucis. »
À l'évidence, le reste se référait à Merylil et à ses avanies avec les régentes. Au deuxième étage d'une auberge appelée la Nouvelle Charrue, les deux femmes étaient assises sur leur lit. Autour de leur cou pendait le terrangréal consacré aux rêves, celui d'Elaine accroché à une simple cordelette et celui de Ninevée à la chaîne d'or où elle gardait également la chevalière de l'âne. Encore habillées, Avienda et Birgit avaient pris place sur des coffres à vêtements. Elles allaient monter la garde, leur expression, jusqu'à ce que la fille héritière et Ninevée reviennent du monde des rêves. Et elles ne retireraient pas leur cape jusqu'à ce que vienne pour elles le moment de se coucher. La Nouvelle Charrue était en réalité très ancienne. Tous les murs s'effritaient et il y avait des courants d'air partout. Dans la chambre plutôt petite, les coffres et les baluchons empilés laissaient fort peu de place pour autre chose que le lit et la table de toilette. Bien sûr, à Kemlin, Elaine devrait apparaître dans ses plus beaux atours. Elle avait pourtant honte que ses affaires soient transportées par les bêtes de bas alors que les autres femmes devaient les porter sur leur dos. Ninevée, elle, ne semblait pas se sentir coupable au sujet de ses coffres. Déjà 16 jours de voyage. Dehors, la lumière de la lune se reflétait sur l'épaisse couche de neige qui couvrait le sol. Même si le ciel restait clément, la progression ne serait pas facile le lendemain. Arriver à Kemlin dans une semaine semblait désormais un objectif trop optimiste.
« Je suis assez maligne pour ne pas commettre de gaffe, »
dit Elaine à Ninevée.
« Je n'ai pas envie de me faire encore réprimander. »
Un euphémisme, cette façon de présenter les choses. Les deux femmes n'étaient plus allées en Tel Aranriod depuis qu'elles avaient informé Egwene, le soir après avoir quitté le manoir, qu'elles avaient utilisé la coupe des vents. À contre-cœur, elles avaient aussi mentionné le marché passé avec les régentes des vents, qui leur avaient forcé la main. Là aussi, c'était peu de le dire. Soudain, la chair d'Amirline, son étole sur les épaules, s'était dressée face à ses deux amies. Elaine savait que c'était la bonne façon de faire, et elle approuvait. La plus proche confidente d'une reine devait avoir conscience que son interlocutrice restait une souveraine avant d'être une amie. Cela dit, la fille héritière n'avait guère apprécié de s'entendre dire par une amie, sur un ton qui n'avait rien d'amical, que Ninevée et elle s'étaient comportées comme de sinistres abrutis et avaient peut-être définitivement saboté tous leurs plans. De telles accusations étaient dures à supporter, surtout quand on était parfaitement d'accord. Très remontée, Egwene avait ajouté qu'elle ne punirait pas les deux imbéciles heureuses, parce que leur temps était bien trop précieux pour qu'elles le gaspillent en purgeant une pénitence. Pour le moment, un juste courroux avait dû convenir Elaine. Quand elle serait assise sur le trône du lion, elle resterait une Aes Sedai soumise aux lois, aux règles et aux coutumes de la Tour Blanche. Pas pour tout ce qui concernerait l'Andorre, hors de question de livrer son pays à Tarvalon, mais pour ce qui la touchait personnellement. En conséquence, si pénible que ce fût, elle avait accepté calmement les acerbes critiques d'Egwene. Ninevée, elle, avait gesticulé, bégayé d'embarras, protesté que c'était injuste et presque boudé. Puis elle s'était excusée si humblement et si profusément qu'Elaine avait un instant douté qu'il s'agissait de sa bonne vieille Ninevée. Restant dans son rôle de dirigeante, Egwene avait affiché son déplaisir même pendant qu'elle leur accordait son pardon du bout des lèvres. Si elle honorait le rendez-vous de ce soir, ce ne serait pas un moment agréable, au mieux. Mais lorsque les deux amis se retrouvèrent dans le salidar du monde des rêves, au sein de la petite tour de ce qu'on appelait le bureau de la chaire d'Amirline, Egwene n'était pas là. Un indice prouvait cependant qu'elle était venue depuis leur dernière rencontre. Quelques mots tracés sur un panneau de mur vermoulu par quelqu'un qui n'avait pas voulu se donner la peine de les graver. « Restez à Kemlin. Et un peu plus loin, tenez votre langue et soyez prudente. » Les derniers ordres que leur avait donnés Egwene. « Allez à Kemlin et y restez. » Jusqu'à ce qu'elle ait trouvé un moyen d'empêcher le hall d'enfermer les deux imbéciles heureuses dans un baril de saumure. Un pense-bête que les deux femmes n'avaient aucun moyen d'effacer. Elaine s'unit au Saïdar et laissa son propre message. Le nombre 15, apparemment gravé sur la table de travail d'Egwene. Une fois le tissage inversé et noué, il faudrait qu'une rêveuse passe ses doigts sur les chiffres pour s'apercevoir qu'il n'était pas vraiment là. Faudrait-il vraiment 15 jours à la colonne pour attendre Kemlin? Peut-être pas, mais plus d'une dizaine, c'était une certitude. Prenant garde à ne pas sortir la tête, Nineveh alla à la fenêtre pour regarder dehors. Comme dans le monde réel, il faisait nuit, la lumière de la pleine lune faisant briller la neige. Mais le fond de l'air n'était pas froid. À part Nineveh et Elaine, personne d'autre ne devait être là. Et s'il y avait quelqu'un, ce n'était pas une fréquentation recommandable.
« J'espère qu'elle n'a pas de difficulté avec ses plans, »
murmura l'ancienne sage-dame.
« Egwene nous a demandé de ne pas en parler, même entre nous, »
rappela Elaine.
« Quand un secret est éventé, il lui pousse des ailes. »
Une autre maxime favorite de Ligny. Nineveh se retourna, fit la grimace, puis regarda de nouveau dehors.
« Pour toi, c'est différent. Moi, je m'en suis occupé quand elle était petite. J'ai changé ses langes, et je lui ai flanqué une ou deux fessées. Et voilà que je suis censé lui obéir quand elle claque des doigts. Ce n'est pas facile. »
Elaine ne put pas résister à l'envie de claquer des doigts. Nineveh se retourna à la vitesse de l'éclair, les yeux exorbités d'angoisse. Sa robe d'équitation bleue se transforma d'abord en une tenue d'acceptée, puis en ce qu'elle appelait de solides habits de laine de deux rivières épais et sombres. Quand elle comprit qu'Egwene n'était toujours pas là, et n'avait donc rien entendu, elle faillit s'évanouir de soulagement. Lorsqu'elles furent de retour dans leur corps, et se réveillèrent assez longtemps pour dire à Avienda et à Birgit qu'elles pouvaient se coucher, et leur résumer les derniers événements, Layel trouva la plaisanterie d'Elaine excellente, et Birgit rit elle aussi de bon cœur. Au matin, Nineveh se vengea en réveillant la fille héritière avec un glaçon. Le cri qu'elle poussa réveilla tout le village. 3 jours plus tard, la première explosion se produisit.